Alors, Madame Anna Pak est opposante iranienne et défenseur des droits humains. L'objectif de cette émission aujourd'hui, présentée avec Taïeb. Bonjour Taïeb.
Bonjour.
Bonjour Madame Pak.
Bonjour Madame Pak. Bonjour.
L'objectif de cette émission, donc, je vous disais, c'est de mieux comprendre la situation actuelle en Iran, et notamment le combat pour les libertés fondamentales et les droits humains, ainsi que les espoirs démocratiques du peuple italien. Alors,
du peuple iranien,
excusez-moi. Alors, d'abord, merci sincèrement d'avoir accepté cette invitation de Radio Mono pour cette émission spéciale consacrée à la situation du peuple iranien. Merci à Taïeb d'être présent. Et peut-être en présentation, pouvez-vous nous raconter, Madame Pak, ce qui vous a poussé personnellement à vous engager contre ce régime iranien, malgré les risques que ça comporte?
Bonjour à vous et merci surtout à vous de donner la parole qui est en ce moment-là. C'est un peu difficile en France de se faire entendre.
C'est vrai, c'est un peu compliqué.
Et c'est très très compliqué. Moi je suis quelqu'un qui, depuis très longtemps en France, j'ai écrit, ça fait plus de 30 ans que je suis en France et je fuis ce régime totalitaire, islamique et fasciste. La question c'est qu'en France, au début, il y a quelques journaux m'ont publié, mais en ce moment-là, c'est inaudible ce que le peuple iranien veut. Et donc, ce régime, c'est un régime totalitaire.
Oui.
Et Khomeini, le premier jour qu'il a pris le pouvoir, c'était en février 1979. Et juste quelques semaines avant le 8 mars, les Iraniens se préparaient pour célébrer, pour descendre dans la rue, pour se faire entendre par rapport aux femmes, par rapport aux droits des femmes.
Oui.
Mais là, Khomeini a profité de ce moment-là pour dire que ça suffit que les femmes en Iran sortent toutes nues dans la rue. Attention, hein, toutes nues dans la rue et au bureau. Jusqu'à maintenant, vous avez fait tout ce que vous vouliez. Maintenant, vous êtes dans un pays musulman. Il faut que les femmes s'habillent et mettre le voile. C'est-à-dire qu'à partir du moment que les femmes, les Iraniennes, elles étaient sans voile, ça veut dire qu'elles étaient toutes nues. Ça, c'est très important.
Oui.
Et du coup, les Iraniennes qui, elles, voulaient célébrer le 8 mars, soi-disant, dans un pays libéré, soi-disant, et là, elles sont descendues dans la rue pendant 3 semaines. Elles ont manifesté, les avocats, les juges, les femmes juges, les avocats, les infirmières, les femmes au foyer, les femmes avec ou sans voile, elles sont descendues dans la rue en disant que la liberté est ni orientale ni occidentale, elle est universelle. Et nous, on n'a pas fait, vous avez fait votre révolution pour nous mettre en régression, on n'est pas d'accord avec ça. Pendant 3 semaines, les Iraniens, ils ont descendu, ils ont manifesté, c'était très fort. Khomeini a fait un marche arrière. Il dit, oh non, j'ai pas dit que vous êtes obligés, je dis que c'est mieux. Mais seulement à partir de ce moment-là, même si il l'a dit en parole que je dis que c'est mieux, ils ont commencé à encercler les manifestations des femmes par des cutters, acides et des chaînes. Donc ils attaquaient partout les femmes qui manifestaient, qui étaient sans voile. Et ça, ça a duré pendant 2-3 ans. Moi, je me rappelle, j'étais même pas une adolescente, mais j'allais rentrer en adolescence. Et on était obligés d'avoir un voile dans notre sac, un foulard dans notre sac. Et dès qu'on était dans la rue, et bon, on sentait que quelqu'un vient avec des cutters ou avec des chaînes ou avec acide, parce que ils ont commencé à brûler les femmes par acide qui refusaient le voile. Et puis en même temps, ils ont commencé à faire les lois pour criminaliser le non-port du voile. Et donc, aujourd'hui, l'Iran est seul, l'Iran sous la domination de ce régime de mafia islamique,
oui.
Il est le seul pays au monde où le non-port du voile est criminalisé. Et pas plus tard qu'il y a 3 jours, Alors que le régime, on reviendra à là, en ce moment-là, pour se montrer libre et dire que je suis, on est dans un pays libre et tout ça, ils font venir des Libanaises et même en Iran, elles disent allez, venez manifester avec nous, avec voile ou sans voile, et ils montrent les femmes nos voilées. Et malgré ça qu'ils le font pour leur publicité vers les Occidentaux, au même moment, juste il y a 3-4 jours, une jeune femme, une femme de 44 ans, Moshkan, au nord d'Iran, elle va au cimetière sur la tombe de ses parents. Le pasteur qui arrive avec des armes en disant « Pourquoi tu n'as pas de voile ?» Elle dit « Je suis libre de ne pas porter ce voile-là. » Et on tire dessus avec 5 balles sur son cœur. Elle tombe sur la tombe de ses parents. Donc, on est dans un pays comme ça. Mais ce qui est... ce régime-là, il sait ce que c'est. Les peuples iraniens savent ce qu'est ce régime. En Occident aussi, on sait. Mais le problème, c'est qu'en Occident, on a décidé... je dis Occident, je dis pas l'Europe, parce que beaucoup aux États-Unis et beaucoup de gauche et démocrates aux États-Unis et pareil en Europe. En Occident, on a décidé que ce régime, c'est un régime qui est fréquentable, qui a pas de problème, qui il parle même qu'il est démocratique, qu'il est le meilleur. Et vous avez vu lorsqu'il y a eu des frappes contre ce régime. Et Macron a joué double jeu, c'est-à-dire il est venu devant les caméras en disant « Ah, j'étais pas au courant que les États-Unis voulaient attaquer ». Je suis persuadée, en dehors de questions économiques et en dehors de questions pécuniaires que Macron a avec ce régime, on le sait, en dehors de ça, Macron a peur aussi, non seulement Macron, et bon... beaucoup de pays européens, ils ont peur. Et ils pensent que par ce biais-là, ils veulent acheter la paix en ne se pas mouillant à ce conflit. Mais la question, c'est que dès le premier jour que Khomeini a pris le pouvoir, il a dit « Je vais exporter l'islam dans le monde entier ». Il l'a fait, on le voit. Il y a 30 ans, il y a 35 ans, on ne voyait pas autant de voiles et de barbes en France qu'aujourd'hui on voit. Aujourd'hui, c'est effrayant de vivre. Vous êtes pas dans la région parisienne, mais je crois pas que vous soyez plus protégé que nous. Mais franchement, moi, je me reconnais plus en France. Même en Iran islamique, sous les armes de régime, sous les mitraillettes de régime, il n'y a pas autant de barbes et autant de voiles que moi je vois en France.
Oui, et c'est vrai qu'on assiste de plus en plus à des manifestations, d'ailleurs en Iran et pas seulement dans la capitale. Et alors, à ce sujet-là, vous avez commencé à répondre. Quel est le message que vous transmettez aujourd'hui à ces femmes courageuses iraniennes et à ces jeunes qui continuent de lutter pour leur liberté?
Vous voyez, c'est très important de savoir que dès le premier de prise de pouvoir, où les Iraniens, ils disent domination ou l'occupation. Dès le premier jour d'occupation de mafia islamique sur l'Iran, les Iraniennes, elles ont descendu dans la rue, parce que le premier, c'était des Iraniennes. À l'époque, les gauches, ils ont dit « Ah, vous allez pas mourir de mettre un morceau de chiffon sur votre tête. Ce régime est contre et anti-impérialiste. » Et depuis, jamais, 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 un jour, une semaine, une année, que les Iraniens ne sont pas descendus dans la rue, et jamais il y avait un jour où les Iraniens ne sont pas morts pour libérer leur pays. Et ça fait 48 ans. Et la summum, c'était le 8 et 9 janvier de cette année, lorsque le prince Reza Pahlavi a été acclamé en Iran, une semaine avant, en décembre. Les Iraniens, ils ont commencé à très clairement de dire que on veut plus de... Ça fait depuis des années qu'ils disent qu'on veut pas de ce régime, mais clairement, ils ont dit on veut notre roi et on veut avoir Reza Pahlavi. Et le prince Reza Pahlavi a appelé les Iraniens de sortir le 8 janvier massivement dans la rue pour sans rien, les Iraniens, ils sont pas armés, hein, sortir dans la rue. Et là, le régime, il a fait un massacre qui a été préparé et organisé, puisque plus tard, lorsque les vidéos nous sont parvenues, ils avaient acheté des milliers de sacs mortuaires, ces sacs noirs horribles mortuaires. Et là, vous savez que depuis 5 mois, Internet en Iran a été coupé.
Oui,
c'est-à-dire
oui.
Depuis le 8 janvier, Internet était coupé. Les Iraniens de l'extérieur, ça fait depuis des années, toutes les semaines, dans tous les pays de l'Europe, dans le plus petit pays d'Europe, il y a 3 Iraniens, il y a toujours des manifestations, et on est des millions d'Iraniens à travers du monde manifester et dénoncer ce qui se passe, ce qui fait le régime en Iran. Mais les médias et les politiques occidentaux, ils ont décidé de boucher les oreilles, de ne jamais nous donner la parole, de ne jamais de faire entendre la voix du peuple iranien. Et voilà, maintenant, depuis 2-3 jours, le régime a lâché la liesse d'Internet, donc Internet est ouvert. Et là, on reçoit, vous savez quoi, il y a par exemple, un exemple, une femme de 41 ans, avec son fils de 20 ans, son fils de 13 ans et son fils de 10 ans. Ils sortent dans la rue et le régime le tue tous les trois en même temps. Donc les trois, une famille entière, ils sont dans le même tombe. Un autre cas qui nous parvient, c'est des milliers comme ça, parce que le fait que le régime a coupé, pourquoi le régime a coupé Internet? Parce qu'il ne voulait pas que à l'extérieur, nous, on sache ce qui s'est passé là-bas. Nous,
oui,
les Iraniens de l'extérieur, on sait pas.
Couper Internet, c'est couper la communication, en fait. Oui.
Vous savez quoi? Les Iraniens, ils pouvaient... Moi, ça fait depuis décembre, je pouvais plus... Enfin, j'avais aucun contact avec ma famille. Aucun. Et dans force majeure, depuis 2 mois, ils avaient laissé, pas par Internet, par le téléphone normal. Le téléphone normal que les Iraniens, ils payent des milliers hein, pour pouvoir oui. contacter. Seulement 13 secondes. C'est-à-dire que on recevait 13 secondes d'appel, pas pendant qu'il y avait des frappes contre le régime, mais juste il y a 2 mois, c'est-à-dire beaucoup plus après le cessez-le-feu. Et 13 secondes seulement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 5 mois qu'il a coupé Internet? Il est allé maison par maison, quartier par quartier. Il est allé chercher les téléphones de tout le monde. Il a vérifié qu'il n'y a pas de vidéo, qu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de récit de ces massacres, de ce grand massacre, de grand génocide iranien. De 8 et 9 janvier.
Oui.
Et donc, une oui. fois qu'il il est pensé qu'il a été, il a appelé à nettoyer, il a ouvert Internet. Mais bon, les Iraniens, quand même, on veut. Et il a fait sa propre récit. Vous savez qu'il y a récemment, qu'est-ce qu'ils ont dit pour le 8 et 9
Vas-y.
Janvier oui. Le massacre qu'ils ont fait, ils l'appellent ça, ils ont appelé ça, ils ont appelé ça le coup d'État. Un peuple qui est descendu en famille avec des enfants de 2 ans. On a eu des enfants de 2 ans et de 8 ans tués. On a eu des femmes enceintes qui étaient tuées. C'est-à-dire, les gens, ils avaient descendu parce qu'ils pensaient que c'est un moment joyeux de descendre, de dire qu'on veut plus de ce régime-là, on veut changer. Et sachant qu'on sait que ce régime est féroce, mais franchement, personne, ni les Iraniens de l'intérieur, ni nous, on n'attendait jamais à un massacre si immense.
Je crois que Taïeb va poser la prochaine
oui,
question.
Oui, merci. Alors, j'ai une question, s'il vous plaît. La première question, c'est comment voyez-vous l'évolution politique de l'Iran dans les prochaines années?
Vous parlez de l'Iran parce qu'il faut distinguer le régime et le pays et le peuple iranien. C'est vraiment pour les Iraniens. À l'intérieur et à l'extérieur, l'Iran est un pays occupé par le mafia islamique. Donc maintenant, votre question concerne lesquelles? Bien que ces deux sont liés.
Si l'Iran en tant que pays...
En tant que pays, oui.
En tant que peuple, en tant que nation.
Oui,
les Iraniens,
oui, comme ça.
les Iraniens, ils ont une volonté. On est, même nous, à l'extérieur, on est menacés par le régime, bien sûr, de tuer, ou si nos biens en Iran récupérés, confisqués, ok. Quand on donne notre vie, quand on donne notre bien, quand on donne tout ce qu'on a, on veut se débarrasser, on veut de ce régime et on veut libérer l'Iran. L'Iran est prise en otage, l'Iran est occupé par le mafia islamique. La seule chose qu'on veut, libérer notre pays. Et ça, les Iraniens, ils disent à l'intérieur, et nous, à l'extérieur, on reflète ce voie-là, cette voie-là, et on continue tant que ce régime n'est pas tombé. Ça peut être demain, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 10 mois. Tant que ce régime n'est pas tombé, on n'est pas lâché.
Et une autre question justement sur la réaction internationale, oui. Notamment sur les organisations internationales.
Ma deuxième question, pensez-vous que la communauté internationale fait suffisamment pour soutenir le peuple iranien et les opposants démocratiques?
Alors, on a vu, on la voit, au début de notre entretien aussi, je vous ai dit, ouvrez n'importe quel journal télévisé, la radio, les journaux en papier ou sur les sites. Vous voyez rarement en Occident, en Europe soumis à l'Union européenne et aux États-Unis soumis aux démocrates et à la gauche, un journal qui reflète une dixième de la vérité que ça se passe en Iran par rapport au peuple, par rapport à ses revendications, par rapport à ses luttes et par rapport au massacre que le régime fait. Vous voyez, pendant les frappes, une fois que les frappes étaient finies, le régime est allé amener vous vous souvenez de la guerre entre l'Iran et l'Irak?
Oui.
Le sacré terre d'Iran, les Iraniens à l'époque, 2 millions d'Iraniens étaient tués pour libérer, pour mettre les Irakiens dehors. Le régime est allé ramener Hashad al-Abi, je ne sais pas quoi, je ne peux pas dire en arabe leur nom, les branches armées de Daesh d'Irak, avec des camions qui défilaient mais des kilomètres et des kilomètres. Il a ramené des Daesh de Syrie, d'Irak, aussi de Yémen, Hezbollah de Liban et de Hamas. Ils sont venus avec les Katyusha et des mitraillettes et les drapeaux de leur mouvement islamique horrible sur ces camions, et ils ont envahi l'Iran. Et le régime leur paye 200 dollars par jour pour venir. Bien sûr, c'est pas ni contre éventuelle frappe israélienne ni éventuelle frappe d'Américains, mais pour faire peur au peuple iranien, pour dire vous bougez. On sait, ça fait depuis des années qu'on sait qu'ils ramènent des mercenaires à arabophones, parce que dans les rues on les entend, lorsqu'ils tirent ils parlent en arabe, les Iraniens ils l'enregistrent, ils les envoient. Oui. Et là c'était très clair, très revendiqué, très assumé. Donc et vous voyez, donc c'est un pays qui est occupé. Et seulement ce que vous appelez les forces démocratiques ou démocrates dans le monde occidental, je dirais pas qu'ils sont aveugles. Je dirais qu'ils sont ignorants ou aveugles, mais ils se veulent aveugles par idéologie. Vous savez, en Iran on dit quelqu'un qui dort, on peut le réveiller. Mais quelqu'un qui fait semblant de dormir, oui, vous ne pouvez pas le réveiller.
Alors précisément sur ce rôle des médias internationaux, Madame Pack, quel rôle pensez-vous que ces médias internationaux et notamment les radios locales peuvent jouer pour faire entendre justement la voix des opposants?
C'est justement, moi j'étais très contente, vraiment je vous remercie beaucoup, parce que ce qui est très important, c'est le travail des gens comme vous, des radios locales, local. Ok, vous n'avez pas des millions français qui vous écoutent, mais vous avez quelques milliers français ou quelques centaines de français qui vous écoutent. Et ça, je suis sûre que votre travail et la parole que vous faites, vous transmettez, la parole de peuple iranien que vous faites entendre, je suis sûre que ça peut aller quand même toucher leur cœur. Parce que si on n'a pas d'idéologie, on peut être touché par le courage du peuple iranien que depuis 48 ans, il se révolte tous les ans et il est tous les ans et il est massacré et tous les ans il est réprimé dans le massacre. Mais ce qui, peut-être que quelques personnes qui sont idéologiquement et sont fermées, peut-être qu'ils entendront, peut-être, on espère.
Comme j'entendais récemment dans un colloque organisé par l'ARCOM, la radio est le seul média aujourd'hui gratuit à la disposition de tout le monde et qui permet d'informer les gens au-delà de liaison comme Internet. Lorsque Internet est coupé, qu'est-ce qu'il reste aux gens ? La radio comme média prioritaire d'information. Alors justement sur ce sujet-là, malgré ce à quoi vous faites allusion, les difficultés, malgré les épreuves, qu'est-ce qui vous donne encore aujourd'hui envie de lutter et vous donne de l'espoir et de la force pour continuer ce combat, Madame Pack ?
Vous voyez, tous les samedis ou dimanches quand on manifeste, personnellement à Paris, pour moi, mais des millions d'Iraniens à travers le monde, notre premier slogan, c'est, il faut que je le traduise en français, je jure au sang de nos amis, de nos compatriotes coulés au sol, qu'on va libérer notre pays. Donc, vous voyez, oui. tant qu'il y a un Iranien sur la terre, et ce que les Iraniens de l'intérieur, ils disent, et nous aussi, tant qu'il y a un Iranien qui vit encore sur la terre, on ne va pas lâcher ce régime, on va lutter. Même si l'Union européenne, même si d'Espagne, de comment s'appelle, j'ai oublié son nom, cette socialiste de l'Espagne.
Le président de la République espagnole, oui.
Non, c'est pas président, c'est le Premier ministre.
Le Premier ministre,
Silvio,
oui.
Je ne sais pas quoi, oui. J'ai oublié son prénom, en tout cas j'ai oublié son nom, parce que même l'Allemagne, ils ont des armes au régime. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question d'où viennent ces drones du régime qui massacre le peuple ukrainien? Est-ce que vous vous êtes posé cette question?
Oui.
Alors, grâce aux luttes du peuple iranien et le massacre et le sang qui a été coulé en Iran récemment, en Allemagne, il y a eu quelques révélations. Une des révélations, c'était celui-là. On en a plein aussi en France, mais bon, il faut attendre. L'engin le plus principal de ce drone, c'est les Allemands qu'ils ont vendu au régime. Et le régime, ils le fabriquent à millions et millions et millions. Donc, vous voyez, les Allemands, les Français, les Italiens, les Espagnols, toute l'Union européenne, ils vendent des armes au régime. Des armes au régime. Vous voyez, je reviens 3 ans en arrière, lorsqu'il y a eu le mouvement de Femmes des Libertés.
Oui.
Et normalement, le régime est sous l'embargo. Normalement, on ne vend pas des armes au régime. Normalement, oui. N'est-ce pas? Encore quelques années en avant, en 2020, le régime, il disait, sous l'embargo, on ne veut pas de vaccin. De toute façon, il ne voulait pas de vaccin. Et de toute façon, sous le régime, soi-disant, il était sous l'embargo, il n'y avait pas de vaccin. En réalité, les chirurgiens et les médecins nous ont envoyé les balles qu'ils avaient extraites dans les corps des Iraniens.
Des blessures, oui.
2022-2023. Et c'était made in British, made in French, Italy, et envoyé en 2022. Et 2022, ces balles-là, ils avaient tué des Iraniens. En 2023, ils avaient tué ces... Et on est allé voir ici les élus, les députés au Parlement, on a dit voilà, ça c'est Bâle, ça c'est les Bâles, ça c'est preuve, ça c'est la date. Et ils ont dit, oh, on va faire les démarches, on va enquêter, et si c'est vrai, on va demander de compte à rendre par rapport à ce sujet. Et puis, bon, on a attendu, on est allé le voir, alors monsieur député, ah bah oui, mais en fait, c'est pas l'État qui a vendu, mais c'est une entreprise privée. Ah bon?
Oui.
Ah bon? Donc, vous voyez ça?
C'est quand même curieux. Ouais.
Voilà.
Ouais, écoutez, on approche au terme de cette émission, madame Anna Pack. Permettez-moi, au nom de l'équipe de Radio Mono, et puis de vous remercier, et de remercier Taïeb. Merci Taïeb.
Merci à toi, merci et beaucoup. Merci aussi pour madame.
On vous remercie chaleureusement de cette participation à cette émission spéciale consacrée à l'Iran. Merci madame Pack.
Merci à vous, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
برای توی کوچه رسیدم، برای ترسیدم، به وقت بوسیدم، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پرسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبالگر و آرزوراش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگ‌های بی‌گناه ممنوعه، برای گریه‌های بی‌وقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره‌ای که می‌خنده، برای دانش آموز و برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نامه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه، برای غیر تکراری، برای این همه شون آی توهاری، برای آوار هوله های پوشانی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای خالصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میخن آبادی، برای دختری که آرزو داشت به سر بود،
برای زن زندگی.
برای آزادی.